les quartiers des Capucins. C'est là qu'est née comme une fleur grise, dans le silence, mon pur et vrai premier amour. Il est dans une rue, une maison dont la porte soigneusement frottée mirait vaguement dès la nuit tombante la flamme agitée d'un bec de gaz. Mais avant que l'obscurité se fît, derrière les petits carreaux, une enfant aux minces et graves profils de lumière cousait debout. En un jour de congé pascal, mon cœur s'ouvrit comme un calice qui neige au soleil, et un poème s'éleva tel qu'un parfum de mon pur amour. La première muse était née. Elle a présidé à son insu à toutes les phases de ma vie. Elle a connu l'enfant terrible, le jeune homme triste et malade, le solide patriarche que je suis dans la maison bruissante d'enfants. La maison aimée dans ce quartier clérical, aussi vieux que j'étais jeune, c'est la nuit qu'elle m'émouvait le plus par sa netteté. J'entends les pas de mon ami et les miens marteler le silence au clair de lune dont sa façade est frappée. Les volets ont été soigneusement clos sur les nombreux châssis qui encadraient autant de petits carreaux d'un vert verdâtre comme de miroirs mal fondus. Je la regardais dormir. Il me semblait voir ses murs aller et venir calmement. Elle était le vivant aquarium d'une jeune fleur de lotus, sans doute, qui rêvait à cette heure, son bras comme une tige ramenée sur sa feuille d'ébène. Est-il vrai que nous sortons d'ici-bas afin d'y revenir traîner nos pas? Mais qu'importe. Qu'importe. Nous ouvrons les loquets des vieilles portes et nous rendons la vie aux choses mortes, nous souvenant un peu. À Bordeaux, je sais dans un quartier vieux une maison très très vieille. Oui, mes yeux ont vu la maison vieille. Je ne sais pas quand, mais je sais bien qu'elle a les mêmes carreaux d'un verre bouteille et des placards cirés. Une jeune fille reste. De près, je l'ai vue et je sais que je l'aimais bien avant cette vie. Mais je ne l'aime plus. Les jours de pluie, ça revit en moi comme une folie. De quand donc? Je ne sais. Pourtant, où donc ai-je vu des objets que je revois? Quand ai-je donc songé ces choses revivantes? Mais peut-être que tout ça, je l'invente. Mais qu'importe. Qu'importe. Il vante. Il vante. Il pleut, il pleut. il pleut. Était-ce donc cette pluie au temps vieux ? Oui, car c'est un souvenir et mes yeux, bien malgré moi, se trempent. De vieux savants sentant du mal aux tempes pourront travailler la nuit sous des lampes pour rechercher cela. Ils ne sauront point si c'est ici-bas que nous revenons pour traîner nos pas. Ils ne le sauront pas. Janvier 1938. Encore une fois, j'aurais revu Bordeaux. Bordeaux aux portes puissantes, son fleuve aux écailles jaunes et ce jeune homme de 18 ans qui en compte 70. Aube de l'amour, enthousiasme qui ne connaisse point la fatigue. Mon cœur, je te connais. Tu es un marchand des quatre saisons, pareil à celui qui se tenait à l'angle de la rue Bergeret, lorsque dans l'air matinal, entr'ouvrant la fenêtre grise, la main d'une vierge ensommeillée te cueillait comme un fruit au passage. Oh, les cris des oiseaux et des jeunes filles, et leurs coups d'ailes et de robes au-dessus de l'ombre des buis. Oh, fraîcheur des adolescentes, sourire plein comme des fruits, sang vermeil qui coulait sous les nuques si nues, sûreté de vous-même, fleur qui n'avait pas été touchée, que votre innocence m'enchante. Elle va à la pension du Sacré-Cœur. C'est une belle fille qui est blanche. Elle vient en petite voiture sous les branches des bois, pendant les vacances, au temps des fleurs. Elle descend le coteau doucement. Sa charrette est petite et vieille. Elle n'est pas très riche, et elle me rappelle les anciennes familles d'il y a 60 ans, gaies, bonnes et honnêtes. Elle me rappelle les écolières d'alors qui avaient des noms rococo, des noms de livres de distribution des prix, vert, rouge, olive, avec un ornement ovale, un titre en or. Clara Delébeuse, Éléonore Derval, Victoire d'Etremont, Laure de la Vallée, Lia Fauchereuse, Blanche de Percival, Rose de Limereuil, et Sylvie Laboulaye. Et je pense à ces écolières en vacances, dans des propriétés qui produisaient encore, mangeant des pommes vertes, des noisettes rances, devant le pan du parc frais, noir ou gris d'or. C'était de ces maisons où il y avait table ouverte. On y mangeait beaucoup de plats et on riait. Par la fenêtre, On voyait la pelouse verte et la vitre, quand le soleil baissait, brillait. Et puis un beau jeune homme épousait l'écolière. Une belle fille qui était rose et blanche et qui riait quand au lit il baisait sa hanche. Et ils avaient beaucoup d'enfants, sachant les faire. Clara Delibes s'éveille sous ses boucles et bâille contre son bras nu. Elle est blonde et ronde, et ses yeux ont la couleur du ciel quand il fait beau temps. Le soleil de ses anciennes grandes vacances fait bouger sur les rideaux transparents d'indienne à ramage à la fenêtre de l'est l'ombre du tulipier. Il est 8 heures. La pure lumière se glisse dans la chambre, éclairant contre la tapisserie bleue et gaie le portrait de Joachim Delibes, le grand-oncle de Clara. Et la petite jeune fille bâille encore, s'étire et songe. J'aime dans le temps Clara Delibes, l'écolière des anciens pensionnats qui allait les soirs chauds sous les tilleuls lire les magazines d'autrefois. Je n'aime qu'elle, et je sens sur mon cœur la lumière bleue de sa gorge blanche. Où est-elle? Où était donc ce bonheur? Dans sa chambre claire, il entrait des branches. Viens, viens, ma chère Clara Delibes. Aimons-nous encore si tu existes. Le vieux jardin de vieilles tulipes, viens toute nue, Clara Delibes. Elle se nomme Laure Danis. Mais par amusement, à cause de grains de rousseur qui sablent ses joues d'églantine, on l'appelle Pomme d'Annie. Elle est ravissante, mais infirme et frêle. Ce matin-là, du bout d'une canne qui aide à sa marche difficile, Pomme d'Annie fait pleuvoir les lilas. Des gouttes et des fleurs d'un azur gris comme ses yeux tombent sur la cendre de soie de sa chevelure envolée du chapeau. Elle tousse parce qu'elle vient de respirer un moucheron. Puis, comme elle éprouve un chatouillement léger aux ailes roses de son nez, mobile comme celle d'un papillon, elle les frotte d'une manière exagérée en riant, avec la paume de la main. pomme d'Annie boite, mais celui-là est presque une grâce. À la voir venir du fond de l'allée en ce moment où les oiseaux boivent les eaux rieuses de mai, où l'herbe des pelouses égrène des colliers de perles d'arc-en-ciel, on dirait d'une liane en marche à peine balancée par la brise. Elle courbe une branche au-dessus de son front. Son teint d'abricot rose dans l'ombre du vaste chapeau salue la lumière. Son bras dressé fait ressortir la fine élégance des jambes hautes et minces. Rien de difforme n'explique la démarche, hélas hésitante. Dans l'après-midi, les compagnes arrivées, Pomme d'Annie aime que l'on danse. Et c'est d'une touchante délicatesse qu'elle tienne le piano elle-même et qu'elle se plaise à cet amusement pour elle impossible. La danse que préfère accompagner Pomme d'Annie est celle où, avec le plus de grâce et de langueur peut-être, s'élève et s'abaisse l'arc d'ivoire des jeunes jambes. C'est le pas de quatre, où deux danseuses, par la taille enlacée, ne dansent que côte à côte, mais en avant, et semblent animées d'une seule harmonie, d'une même souplesse nerveuse, formant ainsi une double et charmante chimère. Johannes Arnoustegui fait son entrée. Salue Madame d'Annie et tente des arbailles. Luce d'Achuria se lève. Les cheveux traversés d'une flèche d'hyacinthe rosâtre, ravissant en sa robe courte qui découvre ses jambes rondes gainées de soie de bronze à jour, Luce d'Achuria fait face à Johannes Arnoustegui. Le rythme hésite, puis les prend tous les deux. Les bras se haussent, s'incurvent en anse au-dessus de la tête qui se renverse. Les doigts claquent comme des castagnettes. Luce, levant peu à peu la jambe droite comme si elle allait gravir la première marche d'un escalier aérien, fronce les sourcils. Ses yeux de belladone sous la transe du rythme qu'assourdit une guitare que vient de détacher du mur Mariquita dilatent leur baise obscure jusqu'à prendre une expression farouche à force d'être ardente. Johannes se balance longuement, puis il ploie devant elle un genou et semble la supplier comme fait devant un jeune taureau le matador qui l'affronte. Alors, quittant le piano, une plume d'hyacinthe blanche dans ses cheveux de soleil sous la neige, Pomme d'Annie, appuyée sur sa canne, fait péniblement le tour du salon. Elle invite ses amis au goûter qu'elle a préparé. À Almaïde d'Etremont, pourquoi et par quel mystère es-tu venu t'asseoir à mon côté? Dis-moi pourquoi ta grâce antique et tes noirs repentirs me troublent et me rappellent un orage lointain? Et pourquoi seul je t'aperçois dans le passé? Et pourquoi je souffre tant lorsque de tes yeux d'ombre à jamais enfoncés dans les miens, tu sembles me reprocher avec une amertume et un amour immense, une faute que je ne connais point.